Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Regrettez-vous de ne plus y être? Avez-vous beaucoup appris? Avez-vous pu, malgré les restrictions imposées cette année, vous réjouir de cette fête que notre grand Dieu d'amour a pour nous et du dessein qu'il s'apprête à accomplir? Avez-vous pu sortir de votre coquille? De retour de la fête, nous ressentons souvent une sorte de déprime de l'après-fête. C'est un moment de l'année où nous éprouvons une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Et le temps, dans certains cas, y est aussi pour quelque chose. C'est l'automne. Les températures dégringolent et tout semble se dénuder autour de nous, du moins en Occident. La période d'après-fête, dans laquelle nous sommes entrés, peut-être comparé à la traversée d'un désert spirituel. Les prochains jours saints que nous célébrerons seront fin mars, début avril, l'an prochain, en 2021. Quasiment 6 mois sans fête de l'Éternel, pour se réjouir. Mais cette période doit-elle être un désert spirituel? Ou plutôt une période de réflexion et de croissance. Notre Père Céleste s'attend-il à ce que notre vie spirituelle s'assèche? Ou s'attend-il à ce que nous utilisions cette période pour exploiter le bagage spirituel que nous avons acquis pendant la fête, pour croître? Ce bagage spirituel qui est venu s'ajouter à celui que nous avions amassé auparavant depuis notre conversion est un atout puissant. Il représente ce qui nous a été confié. Plusieurs segments de l'Écriture nous disent de faire valoir ce bagage, de bien l'utiliser, de le faire valoir d'être des serviteurs fidèles. Reportons-nous à Matthieu chapitre 24 et le verset 45, Matthieu 24 et le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée, c'est-à-dire son retour, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Pour Dieu, tous les appelés sont des serviteurs de l'Éternel, ministres et pasteurs, mais aussi membres. Le chapitre suivant nous aide aussi à nous fixer un programme, en quelque sorte, qui va nous permettre d'irriguer notre jardin spirituel, de le fertiliser, de le rendre plus productif. Matthieu 25, verset 1, Matthieu chapitre 25, nous sommes tout proches, Matthieu 25 et le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, non seulement de l'huile dans leur lampe, mais elles avaient une réserve aussi. Dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, les folles aussi bien que les sages. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quel est le niveau d'huile dans vos lampes, frères et sœurs? A-t-il augmenté pendant cette fête? Je l'espère, je le pense. Nous avons tous acquis un bagage spirituel. Qu'en faisons-nous? Qu'allons-nous en faire? L'exploitons-nous? Le laissons-nous fructifier? Ou le faisons-nous fructifier? Verset 14 maintenant, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Nous ne savons pas exactement combien valait le talent. Le talent était une mesure de poids en même temps qu'une valeur monétaire, mais c'était une somme assez importante. J'ai regardé sur plusieurs sources et finalement, il y a plusieurs valeurs qui sont données, mais finalement, comme ce n'est pas réellement ce qui est important dans cela, ce qui compte pour nous, c'est la valeur spirituelle. Nous avons tous reçu un bagage spirituel. Et ce qui est intéressant ici, dans ce verset 15, c'est que chacun reçoit selon sa capacité. En d'autres termes, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, et Dieu nous donne en fonction de nos capacités. En d'autres termes, il ne nous demande pas ce qui est impossible pour nous. Il y a des gens qui sont très doués, d'autres qui sont moins doués, et Dieu est juste. Alors, dès le départ, il nous confie selon nos capacités, selon ce que nous pouvons faire, la situation dans laquelle nous nous trouvons, le pays dans lequel nous sommes, nos facilités financières et autres. Bref, il donne à chacun 5 talents, 2 à l'autre et au troisième. Enfin, il donne des talents un peu à plusieurs. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. C'est intéressant, aussitôt, il ne perd pas de temps. Il est tout de suite, dès qu'il a reçu ses talents, il va tout de suite les faire valoir. Il y a un certain zèle dans cette attitude, n'est-ce pas? Alors nous pouvons réfléchir là-dessus aussi. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, à nouveau, c'est selon sa capacité, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Bon, il n'est pas écrit ici que celui-là s'empressa et qu'aussitôt il partit, mais bonne attitude quand même, et il va le faire pour un temps déterminé aussi. Maintenant, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. En d'autres termes, il fait un trou, il met le talent là-dedans, cette somme d'argent, ce sac avec un certain nombre de pièces d'or ou d'argent, peu importe, et il le cache, il referme tout ça et il le cache. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Alors là, c'est un certain temps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, verset 20, apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ton maître, en d'autres termes, se réjouit. Partage avec lui sa joie. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Même chose que celui qui en a reçu 5, il a produit autant, il a doublé sa mise. Entre dans la joie de ton maître, toi aussi, réjouis-toi avec moi. Ah, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Quelle attitude, quel changement d'attitude, n'est-ce pas? J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, finalement ce n'était pas la vérité, mais c'est comme cela que lui, le serviteur, interprétait les choses, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Bon, c'est toi qui dis ça. C'est pas nécessairement la vérité, mais c'est ta façon de voir les choses. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Sans même que tu aies quoi que ce soit à faire, hein, la banque se serait chargée de donner des intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas produit, qui n'a rien produit, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons tous reçu au moins un talent. Tous. Le Saint-Esprit, qui est le plus merveilleux, le plus formidable de tous les talents, n'est-ce pas? Frères et sœurs, je vous donne la nourriture au temps convenable. Christ nous a aussi donné à tous une parabole pour nous rappeler qu'il a investi en nous, qu'il s'attend à des résultats. Luc chapitre 19, verset 12. Luc chapitre 19 et le verset 12. Vous savez, je dirais que la plupart d'entre vous, si c'est non la majorité, vous vous débrouillez bien. Vous faites fructifier vos talents. Donc, ce n'est pas ici pour vous taper dessus et vous dire « Oh, il faut produire plus ». Bien sûr, il faut produire plus, mais ne vous inquiétez pas de trop non plus. Il y a un bon équilibre dans tout cela. Je pense à nouveau, lorsque nous regardons les membres, hein, ceux qui sont fidèles, surtout ceux qui sont là depuis des années, ils ont produit des bons fruits. Hein, combien, par exemple, ont été il y a quelques années au Club des orateurs et ont appris à parler en public. Certains donnent des sermonnettes. Bon, pour d'autres, ce n'est pas aussi facile, mais vous débrouillez dans d'autres domaines. Hein, vous avez des autres talents. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Mais Luc 19, chapitre 19, verset 12, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Cette parabole est tellement claire. Finalement, on voit tout de suite où Christ veut en venir. Il parle de lui. Hein. Il parle de lui, ça le décrit. Mais c'est une parabole, donc il prend un chemin détourné pour se décrire lui-même. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et il leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». La mine étant à nouveau une valeur monétaire qui n'est pas tellement connue de nos jours, mais une certaine somme. Et le plus important, ce n'est pas l'équivalent en dollars ou en euros ou quoi que ce soit, mais il y a une somme qui nous a été donnée. Et cette somme physique, finalement, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le spirituel. C'est une image. Ça représente un bagage, ça représente un certain nombre de talents qui nous ont été donnés. Alors il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. En d'autres termes, faites quelque chose avec ce que je vous ai donné. Ne soyez pas paresseux comme ce mauvais serviteur qui n'a rien fait. Mais ses citoyens le haïssaient. Oh, quelle description du monde, hein ? Christ est venu, mais ses citoyens le haïssaient, l'ont haï. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et c'est certainement l'attitude du monde, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas que Christ règne sur nous. Nous nous débrouillons très bien. Et lorsque Christ reviendra sur cette terre, c'est exactement ce que les hommes diront. Nous n'avons pas besoin de toi. Occupe-toi de tes affaires. Nous nous débrouillons assez bien. Alors que finalement, quand Christ y reviendra, ça sera loin d'être une bonne situation. L'humanité sera sur le point de s'autodétruire. Alors, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. L'argent, alors transposer ça dans le domaine spirituel, plus question de quelque chose de monétaire, mais un bagage spirituel. Auquel il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Bon, et à nouveau ici, c'est une image aussi. Est-ce que nous aurons tous le gouvernement d'un certain nombre de villes? Pas nécessairement, mais ici, il est question de montrer qu'il y a une récompense, n'est-ce pas? Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Alors c'est un peu analogue à ce que nous avons lu avant. « Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère qui prend ce que tu n'as pas déposé et qui moissonne ce que tu n'as pas semé. » Mauvaise attitude à nouveau. Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que hein, on peut mettre ça entre guillemets, que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Après tout, c'est lui le patron, il peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 mines. Hein? 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Il y a donc deux paraboles qui sont réellement très analogues. Et c'est pour bien nous montrer à quel point Dieu attache de l'importance à ce principe ici. Rappelez-vous que quand Jésus parlait en parabole à la foule, il ne s'attendait pas à ce que la majorité comprenne. Seuls les disciples allaient comprendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent un jour, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous les appelés, hein, les prémices, sous-entendu à vous, mes disciples, au fil des siècles, de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Eux, ils ne comprennent pas. Matthieu 13, 10 à 11. Nous, nous sommes concernés. Eux, leur temps viendra plus tard. Nous avons donc acquis et continuons d'acquérir un bagage précieux qui est un bagage spirituel. Un bagage intellectuel, certes, hein, un certain nombre de connaissances que nous avons, mais surtout un bagage spirituel. Nous devons donc nous concentrer de plus en plus sur des résultats, sur ce que la Bible appelle des fruits. Notre humeur doit être à la croissance, en quelque sorte. Qu'est-ce qui doit faire l'objet de nos pensées, hein, pendant cette période qui n'a pas à nouveau besoin d'être un désert spirituel? Dans le dernier chapitre de son épître aux Philippiens, Paul parle de 8 domaines que je trouve à propos. Et je vous propose d'en faire, en quelque sorte, notre projet hivernal, si vous voulez, de croissance durant la traversée de ce petit désert. À nouveau, c'est quand même un petit désert, mais qui n'a pas besoin d'être un aride et terrible désert spirituel. Alors, Philippiens chapitre 4, portons-nous à Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 et le verset 4. Philippiens chapitre 4 et le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que cela nous décrit? Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul était si positif, si optimiste. Il écrivit cette épître probablement en 61 ou 62 de notre ère, alors qu'il se trouvait en prison à Rome, pour avoir prêché la vérité et le vrai évangile. Bien qu'emprisonné, Paul mit l'accent sur la proclamation de l'Évangile. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » C'est ce qu'on peut lire au chapitre 1 et au verset 12 et 13. Risquant la mort aux mains de l'imprévisible empereur Néron, Paul se demandait s'il allait vivre ou être mis à mort. Or, il écrivit « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » À nouveau, c'est toujours dans le premier chapitre, versets 21 et 23 et 24. Quelle attitude formidable! Une attitude que nous pouvons avoir aussi, que nous devrions avoir aussi, plutôt qu'être négatif et pessimiste. Arrangeons-nous pour avoir cette attitude que Paul avait. À nouveau, il était dans une situation très précaire et même dangereuse, et pourtant il disait « Réjouissez-vous, hein, ayez les pensées sur ce qui est positif. » Écrivant de prison, Paul savait très bien ce que signifie souffrir pour Christ. Pourtant, il ne s'en plaignait pas, il ne s'apitoya pas sur son sort. Il écrivit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » chapitre 4, verset 11, dans la même épître. Nous devons nous aussi apprendre à être contents, même si nous souffrons. Comme Paul le déclara, il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Quelle attitude formidable, quelle attitude positive, optimiste. Chapitre 1, verset 29. La grâce de souffrir. Paul trouvait que c'était une grâce de souffrir. Quelle parole touchante, inspirante. Et Paul fournit quelques conseils que je trouve à propos pour nous en cette période de l'année. Philippiens chapitre 4 maintenant, verset 8, verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces paroles positives sont tout un programme et elles nous indiquent une voie à suivre. Quelques domaines dans lesquels nous concentrer en quelque sorte pour maintenir le cap dans ce petit désert spirituel. Est-ce que tout ce qui est vrai fait l'objet de nos pensées? C'est la première question à nous poser en fonction de ce que Paul a écrit. Est-ce que tout ce qui est vrai fait l'objet de nos pensées? Ou alors est-ce que nous méditons quelquefois des choses qui sont plutôt entre les deux, qui sont plutôt douteuses? Quelle place la vérité occupe-t-elle dans nos vies? C'est un bon moment de l'année pour nous rappeler ces choses. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Nous lisons ceci dans plusieurs versions françaises, comme la seconde. Proverbe chapitre 14, verset 12. Mais je vais lire cette fois-ci. Alors, premièrement, on peut lire la version seconde, hein, la nouvelle édition de Genève, par exemple, Proverbe 14, 12. Proverbe chapitre 14 et le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme. À nouveau, nous devons nous soucier de la vérité. Dans chaque chose, nous devons nous dire, est-ce que c'est véritable? Est-ce que c'est la vérité ce que je fais? Ce que j'entends, ce que j'ai dit, etc. Telle voie paraît droite à un homme. Alors, avec notre logique humaine, nous trouvons que c'est droit, que c'est juste, que c'est bien. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Bon, c'est ce que nous lisons dans la version ordinaire que nous étudions la plupart du temps, l'édition de Genève, la plupart des versions secondes. En fait, dans l'original, il est question de les voies de la mort. La version Martin. Alors, si on regarde la version Martin, par exemple, cela, il a cela juste. Et il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue sont les voies de la mort. Il y a un certain nombre de voies qui mènent à la mort, n'est-ce pas? Nous soucions-nous de la vérité dans chacune de nos pensées, dans nos opinions? Se situe-t-elle au cœur de notre raisonnement, de tous nos raisonnements, cette vérité? Nous pouvons toujours nous améliorer dans ce domaine. Pourquoi ne pas nous concentrer dans les prochains mois et dès aujourd'hui sur la recherche de la vérité en toutes choses, dans tous les domaines dans notre vie? La vérité, ça demande de l'honnêteté, n'est-ce pas? Un chrétien est quelqu'un qui est mis à part, autrement dit, qui est sanctifié par la vérité. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Nous vivons dans un monde qui ne croit pas aux absolus. Or, pour Dieu, il y a des absolus. Il devrait en être de même pour nous. Vous savez, on nous parle parfois de demi-vérité. Ben, comment quelque chose peut-il être à moitié vrai et à moitié faux? Évitons les demi-vérités. Christ a dit qu'il nous conduirait, grâce à son Saint-Esprit, dans toute la vérité. Il a dit ça à ses disciples qui allaient écrire le Nouveau Testament. Il allait les conduire dans toute la vérité. Mais c'est un processus qui se poursuit et se poursuit encore pour nous. Grâce à son Saint-Esprit, Dieu nous ouvre le cœur et l'esprit pour que nous comprenions sa vérité. Il nous guide dans la vérité. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, a-t-il dit. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, versets 15 à 17. La parole divine nous fournit les principes de base pour tout ce qui est vrai dans tous les domaines. Elle nous fournit les principes de base, des principes que nous pouvons appliquer dans toutes les situations. Et évidemment, elle ne décrit pas toutes les situations. Ézéchiel a dit quelque chose de fondamental à ce sujet dans une prophétie sur Juda. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Quand je disais Ézéchiel a dit quelque chose de fondamental, je voulais dire Jérémie. Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Bon, nous savons que nous avons la possibilité de décider, c'est vrai, mais ce qui est écrit ici, c'est que franchement, nous n'avons pas le pouvoir de bien décider. L'homme a amplement prouvé depuis près de 6000 ans qu'il ne peut pas, il ne peut pas seul se diriger. Nous avons besoin de Dieu. Et nous connaissons tous évidemment le 9e commandement qui proscrit plus exactement tout faux témoignage. Un faux témoignage est un mensonge. Deuxièmement, est-ce que tout ce qui est honorable fait l'objet de nos pensées? Pour reprendre un autre point que Paul cite dans Éphésiens, est-ce que tout ce qui est honorable fait l'objet de nos pensées? Qu'est-ce qui est honorable? Les questions ici de notre réputation, n'est-ce pas? Diverses versions ont les mots honnête, respectable, vénérable, digne, décent ou digne d'honneur, digne d'égard. Il est donc question d'être respectable et digne d'honneur, de mériter d'être félicité en quelque sorte, loué, complimenté. Il est question d'intégrité et d'honnêteté. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui, est-il écrit dans Proverbes chapitre 20 et le verset 7. Je ne m'y reporterai pas, mais le juste marche dans son intégrité. C'est une belle image. Non seulement il a cela dans la tête, mais il en fait un mode de vie. Il marche dans son intégrité. C'est une image ici. Il pratique cette intégrité. Et Paul revient sur cette idée dans sa seconde épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant quoi ? La vérité. En publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul revient ici sur l'importance de la vérité, mais de l'honneur aussi. Tout cela, c'est lié ensemble, n'est-ce pas ? Il parle ici de réputation, en quelque sorte. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 11, 3. Proverbe 11, 3. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut être pauvre mais avoir une bonne mentalité, avoir Dieu de son côté, que de marcher dans la fausseté, avoir les lèvres perverses. Proverbe 19, 1. Proverbe 19, 1. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux qui ont la voix, dont la voix est intègre, lui sont agréables. Proverbe 11 et verset 20, la deuxième partie du verset. Proverbe 11, 20. Tout ce que nous faisons est-il honorable, digne d'égard? Quel est notre degré d'intégrité? Il est bon de penser à ces choses dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. Nous avons le temps de nous concentrer davantage sur le bagage spirituel qui nous a été donné pendant cette fête. Réfléchissons à ces choses. Sommes-nous honorables, dignes d'égard? Quel est notre degré d'intégrité? Peut-on nous croire sur parole? Sommes-nous dignes de confiance? Troisièmement, est-ce que tout ce qui est juste fait l'objet de nos pensées? Est-ce que tout ce qui est juste fait l'objet de nos pensées? Sommes-nous justes, équitables? Cela sous-entend que nos pensées et notre comportement sont absents de corruption. Il est question de morale et d'éthique. Il est question des principes moraux sur lesquels nous appuyons tout ce que nous faisons. Proverbe 16, 11. Proverbe chapitre 16 et le verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, Deutéronome 27, 19. Autre domaine dans lequel nous devons être justes. Traitons-nous tout le monde de la même manière, peu importe leur statut, leur situation sociale, leur religion, leur nationalité? Voyons-nous à chacun d'eux un enfant de Dieu en puissance? Dieu ne fait point de favoritisme. Il ne fait pas exception de personne. Passage que nous trouvons dans Actes chapitre 10, verset 34. Je ne m'y reporterai pas, je le cite simplement. Actes 10, 34. Est-ce que nous faisons du favoritisme? C'est humain, vous savez. Quand nous voyons quelqu'un, c'est intéressant. Mais on voit ça tout le temps. Si vous avez quelqu'un qui est bien habillé, qui a belle allure, surtout s'il est grand, automatiquement, on lui fait confiance davantage que l'autre qui n'est pas tellement bien habillé, qui est plutôt tranquille et même qui n'est pas attirant, finalement. Vous savez, c'est humain. Et on voit cela tout le temps. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5, 30. Ce sont quelques points, finalement, pas beaucoup, mais quelques points sur lesquels nous pouvons nous concentrer. C'est notre programme hivernal. Pendant ces semaines qui vont suivre, concentrons-nous sur ces choses, parce que nous pouvons tous nous améliorer dans ces domaines. Jean chapitre 5, verset 30, Christ parle ici, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si Christ a pu dire quelque chose comme ça, à plus forte raison, nous. Nous ne cherchons pas notre justice à nous, notre justice humaine, mais nous cherchons la justice de Dieu. C'est cela qui est important. Quatrièmement, est-ce que tout ce qui est pur fait l'objet de nos pensées? Ah, ça c'est un sujet important, la pureté. La pureté de nos pensées, la pureté de notre corps, bien sûr, mais surtout la pureté de nos pensées. Il est parfois difficile de nos jours d'avoir des pensées pures au milieu de ce bombardement d'images choquantes, de tout cet érotisme flagrant et de tant de paroles impures, d'obscénités, de jurons, de propos blasphématoires, au milieu de toute cette indécence, de tant de perversions, d'exhibitionnisme et j'en passe. Il est difficile de garder la tête froide. La tête froide quand on vit dans Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Cherchons-nous à tout prix à fuir le mal, à éviter les situations, même à les fuir, à éviter les situations qui ont le potentiel de nous compromettre, de nous faire chuter? Étrangers et voyageurs sur la terre, nous abstenons-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme? 1 Pierre 2, 11. Est-ce que cela nous décrit? Nous conservons-nous purs devenant ainsi des vases d'honneur sanctifiés, utiles à notre maître et propres pour toute bonne œuvre? Fuyons-nous les passions de la jeunesse et recherchons-nous la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Et 22. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, 12. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. Nous marchons selon l'Esprit et n'accomplissons pas les désirs de la chair, ayant crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, versets 16 et 24. Galates 5, 16 et 24. Nous rejetons avec force les pensées mauvaises, car elles sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Romains 6 maintenant. Reportons-nous à Romains chapitre 6 et le verset 12. Romains chapitre 6 et le verset 12. Romains 6, 12. À nouveau, il est question de pureté. Nous devons nous concentrer pendant ces quelques semaines qui suivent, non pas que c'est quelque chose qu'il faudra simplement travailler pendant juste ces quelques semaines, mais quelque chose qu'il faut continuer d'améliorer. C'est un programme qui est utile, qui est bon pour nous. Un programme qui va nous permettre de croître et non pas de végéter dans cette sorte de désert. À nouveau, il n'est pas nécessaire que ce soit un désert aride et profond. C'est un désert automatiquement, oui, les fêtes vont nous manquer. Mais prenons le temps de croître, de nous développer, de développer ce bagage spirituel que nous avons. Romains chapitre 6, verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. » Et à nouveau, c'est une image ici. Nous sommes toujours vivants. Nous ne sommes pas morts physiquement parlant. Mais vivants de mort, il est question de spirituel ici. Comme étant vivants spirituellement de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Maintenant, cinquièmement, est-ce que tout ce qui est aimable fait l'objet de nos pensées? Est-ce que tout ce qui est aimable fait l'objet de nos pensées? Il est question d'être quelqu'un qui est aimé de tous, qui est sympathique, affable, d'une grande gentillesse, au lieu d'être un grincheux, un rouspéteur, un mécontent. Sommes-nous aimables? Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3 et le verset 14. Éphésiens 3, 14. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur dans toutes les dimensions, à tout point de vue, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, est-il écrit dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, souvent, on parle de ce passage, on dit c'est pour les dames. Ah, écoutez, non, bien sûr c'est pour les dames, mais cela s'applique aussi aux hommes. Ayez vous aussi, messieurs les hommes, cette parure intérieure, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Cela s'applique aux hommes aussi. Ce qui est un grand prix devant Dieu. À nouveau, si c'est d'un grand prix devant Dieu, cela a de l'importance aux yeux de Dieu et cela devra en avoir pour nous aussi. 1 Pierre 3 et les versets 3 et 4. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 4. Vous savez, si nous sommes aimables, eh bien nous avons toutes ces choses automatiquement. Question pour nous d'être aimables. Être aimables. Il faut que l'amabilité fasse l'objet de nos pensées, que tout ce qui est aimable, aimable surtout pour Dieu, aux yeux de Dieu, est-ce que cela fait l'objet de nos pensées? Alors 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, L'amour est patient. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que je suis patient? Il est plein de bonté. Est-ce que cela nous décrit? L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Sauf le mal, évidemment, il faut bien comprendre ce que Paul veut dire ici. Il excuse tout, il croit tout. Non, nous ne croyons pas des mensonges, évidemment. Il faut comprendre ce dont Paul parle ici. Être aimable, c'est d'abord avoir de l'amour pour tous. Comme l'a écrit Pierre, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre 4, 8. Sixièmement, est-ce que tout ce qui mérite l'approbation fait l'objet de nos pensées, frères et sœurs? Autrement dit, tout ce que nous pensons, faisons et disons, est-il digne d'être approuvé de Dieu? Qu'est-ce que notre Père Céleste approuve? Matthieu 7, 21 est un passage auquel on peut penser. Pas uniquement cela, mais c'est un passage important. Matthieu 7, 21, que nous connaissons bien. Matthieu 7, 21, un passage qui nous est familier. Matthieu 7, 21. Vous avez tous ces chrétiens là-bas qui, bon, ils sont séduits, ce n'est pas de leur faute. Un jour, ils auront leur chance. Mais est-ce qu'ils sont approuvés de Dieu? Ils ne font pas sa volonté. Et en général, ils se concentrent sur Christ, mais pas du tout sur le royaume et pas du tout sur le Père. On met l'accent, la plupart de ces églises chrétiennes mettent l'accent sur Christ et non sur son message, sur la personne de Christ. Christ a dit ici, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement, celui qui fait ce que je dis, qui fait ce que Dieu dit. Ça me fait penser au psaume 51, verset 16, psaume 51, 16 et 17. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, quelqu'un qui est humble. Brisé parce qu'il se rend compte de sa fragilité. Nous sommes tous si fragiles. C'était psaume 51, versets 16 et 17. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, verset 11. Psaume 147 et le verset 11. N'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. À nouveau, c'est aimable, c'est bon pour lui. Il aime ces choses, il les approuve. Nous recherchons l'approbation, mais surtout l'approbation divine. Qu'importe l'approbation des hommes, bon, c'est bien si nous pouvons avoir leur approbation, mais si cela est contraire à la volonté divine, qu'importe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12 et le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À nouveau, c'est cela qui a l'approbation divine. Il s'agit de se sacrifier en quelque sorte, c'est cela. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur, Dieu dit à nos enfants, à vous les enfants qui êtes dans l'assemblée. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Vous voulez être agréable au Seigneur, obéissez-leur. Sauf évidemment s'ils vous disent de faire quelque chose qui n'est pas juste, qui est contraire à la parole divine. Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossiens 3, 20. Reportons-nous maintenant à 1 Timothée chapitre 2 et le verset 1. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et cela devient de plus en plus difficile car nous voyons beaucoup de dirigeants autour de nous qui sont loin d'être des saints, n'est-ce pas? Ils sont loin de faire ce qui est juste. Mais Paul nous dit ici de prier pour eux. Il y a une certaine attitude dans cela. C'est agréable à Dieu de se soucier d'eux, de prier pour eux. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités aussi, mais ils ont été placés dans un poste d'autorité et bien, quoi qu'ils fassent, nous devons les respecter. Nous n'avons pas besoin d'approuver ce qu'ils font, mais nous devons les respecter, respecter le poste qu'ils ont et même prier pour eux. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu approuve ce genre d'attitude. Est-ce que tout ce qui est vertueux fait l'objet de nos pensées? Pour Dieu, qu'est-ce qui est vertueux? Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, il est écrit que nous devons ajouter à la foi la vertu. Mais une fois que nous croyons en Dieu, nous devons commencer à nous comporter en conséquence et raisonner, parler et agir chrétiennement. Il a été dit que la vertu est ce courage moral qui ne tient compte d'aucun obstacle pour parvenir au but. C'est intéressant ça comme citation. Je répète, la vertu est ce courage moral qui ne tient compte d'aucun obstacle pour parvenir au but. Et notre but, c'est le royaume. Frères et sœurs, c'est notre but, c'est le royaume. C'est juste finalement cela. C'est juste. Galates chapitre 5, verset 22. La vertu est synonyme d'action, de résultat, de fruit. Et par conséquent, des fruits de l'esprit, c'est cela qui nous intéresse, nous. Il est bon de nous concentrer pendant ces quelques mois, sans fête, sur chacun des fruits de l'esprit énumérés dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Reportons-nous à Galates chapitre 5 et le verset 22. Cela, ce sont des choses importantes, c'est la base. Et nous avons toujours besoin de nous améliorer. Je pense que vous faites du bon travail et nous vous félicitons certainement hein, dans tous ces domaines, mais à nouveau, nous sommes là pour croître, nous développer davantage, et ces quelques mois de petits déserts, quand même, hein, sont là pour nous aider à utiliser ce bagage spirituel que nous avons reçu, à méditer les messages que nous avons entendus, à les revoir, à les repenser, et à nous développer, à croître. Galates chapitre 5, verset 22. Ce que nous voulons, c'est le fruit, à nouveau, nous voulons des résultats, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que nous avons de l'amour les uns pour les autres et même pour nos frères humains? La joie. La joie, c'est important aussi. Si nous n'avons pas de joie, si nous sommes toujours tristes, il y a un problème avec nous. Paul, lui, pouvait se réjouir, comme nous le lisions dans Éphésiens, il pouvait se réjouir malgré les difficultés, malgré la situation difficile et même dangereuse dans laquelle il se trouvait. Il se réjouissait parce que lui, il voyait plus loin, et nous devons faire la même chose. Ce monde, cette vie physique est de plus en plus difficile, n'est-ce pas, pour nous tous. Nous vivons dans un monde tellement corrompu que finalement avoir beaucoup de joie à propos des choses qui sont dans le monde, eh bien, c'est de plus en plus difficile. Mais si nous avons les yeux, si nous gardons les yeux sur notre Père Céleste et sur Christ, là nous pouvons réellement nous réjouir, parce que nous savons ce qui vient. Alors il s'agit de nous concentrer sur ce qui est important. Ce qui vient, c'est un royaume extraordinaire. Fini le mal, fini le péché, fini la corruption. Nous serons tous, ce monde sera plein de frères et sœurs qui s'aiment, qui s'entraident. Il y aura la paix, il n'y aura plus personne qui sera malade, il y aura beaucoup de productivité. C'est cela qui s'en vient. Et si nous ne pouvons pas tellement nous réjouir avec ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, nous pouvons certainement nous réjouir de ce qui vient, de ce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Il n'y en a plus pour longtemps. Ça viendra bien vite maintenant. L'amour, est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous avons la paix? À nouveau, la paix dans ce monde, c'est difficile, la paix physique. Mais est-ce que nous avons cette paix intérieure? Surtout cette paix intérieure? Et la patience, patience. Est-ce que nous avons la patience? Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir la patience. Nous avons certains degrés de patience, mais nous développons cela, n'est-ce pas? Et la bonté. La bonté, est-ce que nous pouvons développer cette bonté? Ah oui, bien sûr. Tout cela, ce sont des fruits, ou un fruit, des fruits, c'est la même chose. C'est ce qui est issu du Saint-Esprit, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ici, question de 9 qualités spirituelles divines qui sont merveilleuses. Et que nous avons besoin de développer pour être à la même page que Dieu, pour pouvoir le comprendre, avoir son caractère et pouvoir entrer dans son royaume. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 8. Est-ce que tout ce qui est digne de louange fait l'objet de nos pensées? Il est évidemment question de tout ce qui est digne de louange selon Dieu. Par conséquent, nous devons nous assurer que Dieu va louer ce que nous pensons, disons et faisons, qu'il va en être content, satisfait et s'en réjouir. Celui qui a dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2:6. Vous avez beaucoup de chrétiens, des millions de chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont sincères, mais ils ne font pas ce que Christ a dit. Colossiens 1, 9. Je suis à la bonne page. Colossiens 1, 9. Nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En bon et fidèle serviteur, et c'était le titre de mon message aujourd'hui, en bon et fidèle serviteur, utilisons les mois qui nous séparent des prochaines fêtes divines pour croître et pour nous préparer à l'avenir merveilleux que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ nous réservent. Reportons-nous comme dernier passage à 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 1. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Et là, je pense que je peux dire la même chose pour la plupart d'entre vous. C'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Intéressant comme expression. De progrès en progrès. Donc, nous devons croître. C'est le moment pour nous de nous concentrer davantage sur notre bagage spirituel, sur ce que nous avons appris. Revenir sur ces messages que nous avons entendus. Les réécouter. Regardez nos notes et voir ce que nous pouvons améliorer dans tout cela. De marcher de progrès en progrès. Tirons donc profit de ce petit désert spirituel pour marcher à cet égard de progrès en progrès. Croître et nous rapprocher de notre grand Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage, et je vous dis au revoir et à bientôt.